L'Éden de Seth en numéro 185, cristallisé par la parole vivante, le 15 septembre 2024. Brian Kozurek, pasteur. Inclinant la tête en prière. Père bienveillant, nous aimons simplement venir ici et nous rencontrer les uns les autres. C'est juste que nous pensons à l'éternité, Seigneur, à passer du temps ensemble, à avoir le temps de nous asseoir pendant 500 ans, voire 1000 ans, avec des gens à qui nous n'avons pu parler que pendant peut-être quelques minutes à la fois. Et donc, Seigneur, nous attendons avec impatience ce moment et ce sera un endroit tellement agréable. Il n'y aura pas de mal acquis, il n'y aura personne sans le Saint-Esprit, simplement rempli de ton esprit. Et ainsi, nous nous glorifions simplement dans cela, Seigneur. Et donc, maintenant, aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à comprendre comment la parole affecte la semence, comment elle manifeste ou cristallise véritablement la semence. Et donc, nous prions simplement, au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est tellement bon de vous voir tous ce matin. Ainsi, comme je l'ai mentionné, le titre de ce sermon est l'Éden de Seth en numéro 185, cristallisé par la parole vivante. En fait, cela devrait être la semence cristallisée par la parole vivante, parce qu'il faut la lumière pour la manifester, et donc, nous allons examiner cela ce matin. Maintenant, si nous ouvrons nos Bibles, ce matin, à Hébreux 11, 1, nous remarquons que la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on n'y voit pas. Nous lisons de l'apôtre Paul au sujet de la foi où il dit, « La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on n'y voit pas. » Ainsi, nous voyons que la foi est à la fois une substance et une évidence. Et puisque nous savons que la foi est une révélation, parce qu'un prophète confirmé nous l'a dit dans plusieurs de ses sermons. Les œuvres sont la foi exprimée 26 novembre 65 p. 46. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Maintenant, pensez-y. Vous savez, nous pensons généralement à la foi comme étant, eh bien, je suis luthérien. Ou la foi, c'est je suis baptiste. Ou la foi, c'est eh bien, en fait, ce que vous définissez, c'est votre doctrine, votre credo. D'accord. La foi, c'est je suis de l'église pentecôtiste unie, ou la foi, c'est je suis un croyant du message. Eh bien, pas vraiment. La foi est une révélation. Alors, la parole vous est-elle révélée ou pas? Donc, la foi est-elle une révélation? C'est intéressant. Vous pourriez parler à de petits enfants, comme l'a dit frère Vell, âgés de 5 ans, leur montrer les écritures concernant le Père et le Fils. Et vous dites, maintenant combien y en a-t-il? Ils diront 2. Mais ensuite, vous parlez à une personne qui a subi un lavage de cerveau par sa dénomination, vous dites, combien? Eh bien, il n'y en a qu'un en 3. Comment pouvez-vous en obtenir un en 3? Ces gens sont absolument fous comme le sont les démocrates aujourd'hui. D'accord? Comment pouvez-vous être chrétien et démocrate? Vous n'y pouvez pas, parce qu'ils croient en l'avortement. Et donc, ils éliront une personne pro-avortement en fonction. Donc, ils mettent une personne qui assassine une personne, qui vote pour les LGBT, et toute cette pourriture, et ils se disent chrétiens. Ils n'y sont pas chrétiens. Ce sont des païens. D'accord? Ainsi, la foi est une révélation, un, de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Puis il dit, il vous a révélé cela par sa grâce. Maintenant, Pensez-y, parce qu'avant la fondation du monde, vous avez été choisi. Oh là là. Pensez-y. J'ai regardé un film l'autre jour, une vidéo en ligne. Vous l'avez vu. Vous avez été nombreux à le voir. Certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Mais il s'appelle, à quel point notre Dieu est stérile grand? Et l'homme compare cette terre à une simple subdivision, et cette subdivision s'appelle la Voie lactée. Il n'est mis fait que 500 trillions de miles ou 1 milliard de miles de large. Donc, vous savez, il vous faut un certain temps pour vous rendre de l'autre côté du lotissement. Mais ensuite, quand vous entrez au microscope et que vous y entrez et entrez, vous voyez que nous sommes si petits, si infiniment petits, qu'un Dieu qui a tant de compassion, tant d'amour, tant de grâce pour vous tous, et pourtant vous n'avez même pas la taille d'un morceau de poussière en ce qui concerne l'univers. Puis j'en ai vu un autre il y a des années. Nous avons tous vu ensemble où il comparait la Terre à une balle de golf. Vous êtes sur cette balle de golf, mais le Soleil estère ce ballon de basket. Et puis l'étoile appelée Can Maximus a la taille d'un globe. Je veux dire, il estère tellement plus grand que le Soleil, et puis le Soleil estère tellement plus grand que la Terre, et puis nous n'y sommes que ce tout petit point. D'accord? Vous mettez une paille sur la balle de golf, et c'estère la taille d'une ville, d'accord? Donc, nous n'y sommes rien. D'accord? Comme Dieu l'a dit, mes pensées n'y sont pas vos pensées, ma parole n'estère pas votre parole. Mais Jésus a dit, Père, je prie pour que tu leur donnes ta doxa, que tu leur donnes tes opinions et tes valeurs et tes jugements afin qu'ils puissent être un, comme nous sommes un. Ainsi, nous avons un merveilleux frère qui veille sur nous, et nous avons un Dieu qui nous aime tellement qu'il se révèle à nous. Donc, tout n'estère que révélation. Vous n'êtes vous êtes pas élevé dans la foi. Vous savez, les gens disent, oh, là là. Je n'ai pas assez de foi pour guérir d'un ongle incarné maintenant. Alors, quel genre de foi aurais-je pour un enlèvement? Eh bien, je veux en parler, parce que, honnêtement, c'est un terme inapproprié. Si la foi est une révélation, et que la révélation vous est donnée par Dieu, vous l'avez. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous pouvez vous frayer un chemin. C'est quelque chose que vous avez déjà. Pourquoi demanderais-je un vélo à mon père alors qu'il m'en a déjà donné un? C'est comme un gamin qui est assis à Néhémie rien faire et dit, oh, je veux, je veux, je veux. Et il a dit, eh bien, tu l'as déjà, gamin. Qu'est ce que t'attends? Il te suffit d'y entrer, de monter dessus et d'en faire. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Vous n'avez jamais la foi. Elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Avec cela, nous pourrions simplement arrêter le service et simplement avoir une marche d'alléluia et simplement aimer chaque parole qu'il a dit. Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Maintenant, souvenez-vous, c'est frère Branham qui dit ces choses confirmées par Dieu. 2. Voulez-vous voir cela dans les Écritures? C'est bien, parce que nous devrions vouloir des Écritures pour chaque pensée que nous avons. Car Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, Ésaïe 55. Oui, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. 9. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, 11 ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne me reviendra pas à moi sans effet, rendez à Dieu sa parole chaque fois que vous priez, mais fera ce qui estère mon plaisir, et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Pouvez-vous imaginer un agriculteur ayant tout un tas de semences, disant, « Je ferai mieux de ne pas les planter. Je pense que je vais les garder. » S'estère comme, « Je veux le beurre, et l'argent du beurre. » Eh bien, je ferai mieux de ne pas les planter parce que peut-être que je peux faire du pain avec toutes ces semences. Non, il sait que, s'il veut vivre, il doit les planter, parce qu'il en plante un et Dieu la multiplie par centaines. Ok, donc nous savons que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, alors quelle écriture dit Dieu nous révèle sa parole? Quelle écriture? Nous le trouvons dans 1 Corinthiens 2:7, mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée laquelle Dieu avait préordonné avant le monde pour notre gloire. Oh là là! Il pensait à moi avant la fondation de l'univers. Absolument. J'étais dans sa pensée. Et puis, au verset 10, il dit, mais Dieu nous l'a révélé par, quoi? Son esprit. Et puis il continue en nous disant comment son esprit en nous sondera les choses les plus profondes de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas amener une personne là-bas dans le monde à parler des choses de Dieu, à sonder les choses de Dieu. Ils ne sont pas intéressés. Ils s'intéressent à TikTok, ou ils s'intéressent simplement à la dernière mode ou quelque chose du genre. En d'autres termes, Dieu a préordonné même avant le monde sa sagesse qui était tenue secrète, mais il l'a révélée pour notre gloire. Qu'est-ce que le mot gloire? Doxa. Qu'est-ce que cela signifie? Nos opinions. Évaluation des valeurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a pris la sagesse cachée de Dieu, sa doxa, et il nous l'a donnée pour notre gloire, pour nos opinions. Mes opinions sont à l'image du message. Elles sont à l'image de la Bible. N'est-ce pas? Mes valeurs sont à l'image de la Bible. D'accord? Ainsi, les choses qui me sont chères sont les choses qui sont chères à Dieu. D'accord? Ainsi, sa sagesse et sa doxa deviendraient notre doxa. Vous voyez, mes parents voulaient que je parle d'une certaine manière, que je mange d'une certaine manière, que j'utilise les ustensiles d'une certaine manière, que je m'habille d'une certaine manière. Et vous savez quoi? J'ai été élevé, et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai mis me suis pas rebellé à l'adolescence et je n'ai mis me suis pas enfui et je n'ai pas eu toutes sortes de cheveux, de barbe, je n'ai pas fumé, je n'ai pas pris du crack et tout. Il n'est mis pense même pas qu'il y avait du crack à l'époque, mais je n'ai pas fait ces choses-là. J'ai fait ce que mes parents voulaient, leurs valeurs. Et c'est la même chose avec Dieu. Il veut que nous ayons ses valeurs, d'accord? Il veut que nous ayons ses opinions. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'avoir la, 3, vie. C'est la seule façon d'avoir la santé. Pour notre doxa. Il dit ici que Dieu a voulu, en d'autres termes, c'est son intention, que sa sagesse et sa doxa deviennent notre doxa. Il avait l'intention que sa doxa, qui est sa parole, nous soit révélé d'une manière ou d'une autre et que nous remplacions nos propres pensées par ses pensées. Et que nous la recevions pour notre doxa. En d'autres termes, il était prévu que cela soit nos opinions, nos valeurs et nos jugements. 8 Qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. Pensez à tous les hommes qui sont au pouvoir et qui se disent les élites, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, il vous fait savoir ici que sa gloire n'est pas connue des hommes, même s'ils sont les élites. Et vraiment, aucun homme n'est l'élite, ils se trompent simplement parce qu'ils ont plus d'argent. En fait, la Bible dit que s'ils n'y croient pas en Dieu, ils sont insensés. Donc, ce sont en fait des imbéciles, ils n'y sont pas l'élite, d'accord? Mais regardez à qui Dieu donne l'argent, ce sont des hommes qui le cherchent. Et oui, ils le trouvent aussi. Mais Néhémie cherche pas ce qui durera éternellement et s'espère la vie éternelle. Maintenant, je Néhémie parle pas contre l'argent, parce qu'Abraham en avait que Moïse a été bien élevé. Je Néhémie parle pas de vivre pour Dieu avec votre argent. Je parle de laisser votre argent vivre votre vie pour vous. D'accord? Comme lorsque Kiki Woods était millionnaire. Il gagnait 3 à 4 millions de dollars par an. Il jouait pour les Bengals de Cincinnati et, 2 ans plus tard, il était si pauvre qu'il vendait de la viande dans le coffre arrière de sa voiture. C'était à l'homme qui laisse l'argent vivre sa vie pour lui. Mais ensuite, vous trouvez des hommes comme Abraham, qui avait des richesses, Job avait des richesses. Vous trouvez cela, mais ils ont mis Dieu en premier dans tout ce qu'ils ont fait. Mais Néhémie cherche pas ce qui durera éternellement, c'est-à-dire la vie éternelle. Les élites Néhémie font pas cela. L'argent brûlera et les choses ruiront, mais la vie éternelle est-elle pour toujours de ce côté et de l'autre côté. C'est-à-dire ce que je recherche. Vous voyez, la Bible parle souvent d'amasser des trésors dans le ciel. Comment faites-vous cela? Prenez simplement ce qu'il vous a donné et vous le multipliez en le donnant pour aider autant de personnes possibles. N'est-ce pas? Alors vous dites, eh bien, je n'en aurai plus. Eh bien, tout d'abord, il vous donnera 100 fois ce que vous avez. Mais je ne suis pas ici pour parler de ça. Je parle de chaque fois que vous prenez de vous-même et que vous donnez aux autres, Dieu vous aidera. D'accord? Maintenant, vous dites, eh bien, je suis peut-être pauvre. Vous n'êtes pas pauvre dans ses pensées. Vous n'êtes pauvre que dans les pensées de l'homme. D'accord? Mais les amis peuvent pas emporter leur argent avec eux. Il va brûler ou rouiller. Ils pourraient le donner à leurs enfants, comme Bill Gates. À qui va-t-il le donner? Eh bien, même lui en sert ses pour Néhémie pas donner tout son argent à ses enfants. Il n'a donc réservé qu'environ 10 millions de dollars pour chaque enfant. Donc, et le reste, il l'utilise, ils appellent cela investissement philanthropique. En d'autres termes, vous achetez des entreprises, puis vous demandez au gouvernement d'acheter vos produits, puis vous les distribuez. D'accord, vous le donnez en fait. Mais le gouvernement vous finance. Donc, en fait, vous gagnez de l'argent sur vos produits, donc c'est vraiment mal acquis. D'accord? 4. Mais les amis peuvent pas emporter leur argent avec eux. Donc, ce n'est bon que de ce côté-ci. Mais il dit que peu importe qui vous êtes, que vous soyez membre de l'élite mondiale du FEM, Forum économique mondial et de l'ordre mondial des choses, cela n'a pas d'importance. Ils ne seront tout simplement jamais capables de saisir les choses de Dieu. Et vous savez quoi? Non seulement ils ne peuvent pas saisir les choses de Dieu, mais il leur restera possible de les saisir. Donc, vous avez ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Vous avez ce que les élites n'auront jamais. Et ce qui leur est cher n'est que temporaire. Ce que vous détenez est éternel. Vous possédez la parole de Dieu, ils n'aiment ils le peuvent pas. Et ils n'aiment ils connaissent tout simplement pas la gloire de Dieu, sa doxa, ses pensées, ses opinions et ses valeurs. Elles n'étaient pas destinées à ce qu'ils comprennent, mais elles étaient destinées à changer votre doxa. Car s'ils l'avaient vraiment compris, leurs actions auraient été différentes. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la doxa. 9. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Insistez simplement sur cela et vous serez les créatures les plus heureuses sur terre. Maintenant, voici où nous voulons arriver avec notre réponse, si Dieu nous révèle sa parole ou pas. 10. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Donc, si vous avez son esprit en vous, vous n'y pouvez pas vous empêcher de chercher la chose la plus profonde. Vous avez toujours des questions. Comment cela s'accorde-t-il avec cela? Écoutez ceci. 11. Car quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aucun homme n'y connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien sûr, il a créé toutes choses. Et donc, il poursuit en nous disant que Dieu non seulement veut que nous sachions, mais nous les révèle en nous donnant son esprit, sa vie, sa parole, afin que nous puissions savoir. 12. Mais nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été gratuitement données par Dieu. Alors, qu'allez-vous faire avec ça? D'accord, eh bien, permettez-moi de dire. D'accord, on nous dit ici que pour connaître les choses de Dieu, il doit d'abord nous donner son esprit, pour que nous puissions les connaître. C'est-à-dire pourquoi vous pouviez examiner sa parole pendant des années et n'avoir aucune idée de ce qu'elle signifiait, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Maintenant, tout d'un coup, cette écriture est cette écriture. Je compare ces écritures. Oh là là! Je n'ai examiné que cette écriture auparavant, mais je n'ai jamais compris cette écriture-ci. Mais un jour, vous avez reçu son esprit et tout d'un coup, cette même parole que vous n'aimiez compreniez pas, a maintenant un sens pour vous, et vous n'aimiez savez pas comment vous avez pu la manquer. Parce que c'est si simple. En d'autres termes, l'Écriture dit, 5, 13 lesquelles choses aussi nous parlons, non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'Esprit Saint, comparant des choses spirituelles avec les choses spirituelles. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu en vous commence à comparer ce que Dieu a dit ici avec ce qu'il dit là-bas. Et maintenant ces deux éléments ont tous un sens pour vous. Ils se soutiennent mutuellement. La parole et le message de frère Branham se rejoignent, parce que tout est la parole. Et maintenant tout a un sens pour vous. En fait, quand vous l'examinez, vous vous demandez comment j'ai pu le manquer auparavant. C'est si simple. 14. Or l'homme naturel, c'est à dire l'homme qui n'est pas né de nouveau. C'est à dire l'homme qui n'est pas régénéré. L'homme qui n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu n'y reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il n'y peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Vous devez avoir l'esprit pour les discerner. 15. Mais celui qui est esther spirituel, que signifie ce mot? Spirituel. Celui qui est esther rempli de l'esprit, le spirituel esther rempli de l'esprit, celui qui est esther rempli de l'esprit de Dieu juge toutes choses, mais lui n'est jugé par personne. En d'autres termes, nous savons que le jugement appartient au Seigneur, et qu'il juge par sa parole. Donc, nous n'y jugeons pas les hommes, mais nous n'y sommes pas stupides, nous savons que ce que les autres hommes ont n'y correspond pas à la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons juger les choses qu'ils font, mais nous n'y jugeons pas leur fin, parce que cela dépend de Dieu. Ainsi, la parole juge, et nous pouvons juger par la parole, parce que nous sommes devenus l'expression vivante de la parole de Dieu. Elle est tout autour de nous. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. C'est beau. Vraiment, tout simplement beau. Maintenant, dans son sermon l'enlèvement 4 décembre 65 p. 40, frère Branham a dit, mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé, que la révélation, la véritable épouse de Christ, attendra cette révélation de l'enlèvement. Maintenant, j'ai posé une question. D'accord. C'est la chose qui a dérangé beaucoup de gens, ils disent. Eh bien, nous attendons la révélation de l'enlèvement. Et pourtant, le prophète a dit qu'il descend avec un cri, une voix et une trompette. C'est Esther l'enlèvement. Esther, ce qu'on attend ça? Nous avons déjà vu 82 des 86 signes et événements qu'il est venu nous apporter. Mon père m'a déjà donné un vélo. Pourquoi Esther, ce que j'attends toujours un vélo? Hein? Esther, ce qu'on attend le cri? Nous vivons déjà le cri. Eh bien, si nous vivons déjà le cri, alors nous sommes dans l'enlèvement, et alors nous faisons partie du processus de l'enlèvement de Dieu. C'est Esther ce que je veux que vous compreniez. Maintenant, il dit, c'est Esther une révélation, car la révélation Esther la foi. Vous Néhémie pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi Esther une révélation, parce que c'est Esther quelque chose qui vous est révélé. La foi Esther une révélation. La foi, c'est Esther quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. Donc, en d'autres termes, ils disent, eh bien, Covid, je n'ai mais devrais pas dire le mot. Eh bien, cette chose, 6, tout d'un coup, elle est ici. Eh bien, non, en fait, c'est Esther venue de Wuhan. Vous n'aimez comprenez pas ces choses? Je veux dire, ils admettent enfin par tout ce qui s'est passé que les gens ont été trompés. Mais la Bible dit qu'ils seront trompés. La Bible dit qu'avec une crédulité, Dieu leur enverra une forte illusion. D'accord? Et ils l'ont. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. Permettez-moi donc de m'arrêter ici pour une autre minute, parce que je pense que je peux toucher à l'un de ces ismes sacrés que beaucoup d'entre nous ont peut-être eu pendant de nombreuses années et qui, je pense, d'après ce que frère Branham nous dit ici, nos ismes sacrés sont faux. Ils ont tout simplement tort. D'accord? Nous avions certaines croyances que nous avions depuis des années, et nous avons découvert, et, ce n'est pas ce que la Bible dit, Jésus est Dieu. Eh bien, attendez une minute. La Bible dit que Dieu est son Père. La Bible dit que Jésus a un Dieu. La Bible dit qu'il est fils de Dieu, pas Dieu le Fils. Oh, vous voyez? Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont trop jeunes pour savoir de quoi je parle, nous avions l'habitude de dire des choses comme, nous n'avons pas assez de foi pour guérir d'un ongle incarné et encore moins pour changer le corps, comme si la foi était quelque chose que nous pouvions faire apparaître. Oh, nous devons y arriver. Priez, priez, priez. J'ai plus de foi aujourd'hui. Non, oh, il faut que j'en fasse plus. Priez, priez, priez. Et peut-être, oh, maintenant j'ai plus de foi. Non, la foi est révélée. C'est donné par la grâce, par Dieu, vous voyez. Comme si la foi était une prouesse mentale ou une condition mentale ou spirituelle, nous pouvons nous élever et vous n'aimez le pouvez pas. Et donc, nous avons fait apparaître dans nos pensées que Dieu devra faire quelque chose de puissant pour nous donner la foi de l'enlèvement. Nous attendons cet instant ou cet instant. Et c'est comme ça que vous pensiez? Allons. Vous savez que vous pensiez ainsi. Et donc, déjà dans nos pensées, nous nous éloignons de la volonté de Dieu en essayant de comprendre comment Dieu nous donnera cette foi, alors que la foi est simplement une révélation. C'est quelque chose que Dieu vous révèle. Et si Dieu vous le révèle, Alors ce n'est-ce ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Maintenant, ce message va vraiment vous aider à vous détendre, d'accord? À comprendre votre position en Christ. Eh bien, le prophète a dit que la foi est une révélation. Et la révélation, selon le dictionnaire, c'est la manifestation de la vérité divine. Qu'est-ce que la vérité divine? Sa parole. Nous avons les paroles de Dieu, les promesses de Dieu ici. Frère Brian lève la Bible. N'est-ce pas? Mais quand ce qui est à l'intérieur se manifeste et que vous en voyez la réalité, cela devient la foi. Vous n'espérez plus que papa vous donnera un vélo. Il vous l'a déjà donné. Frère Brian montrant la Bible, vous n'espérez plus le cri. Il est déjà sur vous. Vous en faites déjà partie. Je suis déjà en train d'être enlevé. 7. Mon corps est déjà en train d'être changé à iota à la fois. Une seule lumière. Cette lumière grandit et elle grandit jusqu'à ce que vous soyez tout lumière. Frère Branham a dit, quand cela entre de la taille d'un bouton. C'est assez petit, mais cela prend le contrôle de tout votre être. Oh là là! C'est une pensée formidable maintenant. Et donc, qu'est-ce que la révélation, sinon la parole de Dieu manifestée? D'accord? En d'autres termes, comme je l'ai dit, selon le dictionnaire, c'est la manifestation de la vérité divine. C'est ce qu'est la révélation. Qu'est ce que la vérité divine? La parole de Dieu. Telle est la manifestation de la parole de Dieu? C'est quand vous voyez la parole de Dieu s'accomplir. Frère Branham a dit que c'est l'interprétation que Dieu fait de sa propre parole. Et donc, vous n'y pouvez pas avoir de révélation dehors de la vérité divine. C'est comme ce cinglé au Colorado. Il a dit, eh bien, nous n'avons plus besoin de la parole. Nous sommes la parole. Et donc, il a pris une fille dans son église. Il s'appelait lui-même Adam. Eh bien, la Bible dit qu'il n'y a plus d'Adam. Christ était notre deuxième Adam. Je n'ai cherche pas un troisième Adam ou un quatrième Adam. Et il avait une fille dans son église appelée Ève. Bien sûr, elle a prophétisé ceci, elle a prophétisé cela, et aucun d'entre eux n'est mis s'est réalisé, bien sûr. Mais vous savez quoi? Ça faisait du bien. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, d'accord? Et donc, vous n'y pouvez pas avoir de révélation dehors de la vérité divine, ou de ce qu'est la vérité de Dieu, ce qui signifie qu'elle doit être la manifestation de la parole. Et donc, qu'est-ce que la révélation, sinon la parole de Dieu rendue manifeste? En d'autres termes, vous voyez maintenant ce que vous avez lu. Vous voyez maintenant ce dont vous avez entendu le prophète parler, comme la guerre bactériologique et toutes ces choses. En d'autres termes, c'est l'interprétation de ce que Dieu a dit sous forme écrite ou orale. C'est l'expression, c'est la parole de la réalité. De son sermon, les oies du temps de la fin 25 juillet 65 m.P., 38 frère Branham dit, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. En d'autres termes, je crois tout ce qu'il dit ici. Tenant la Bible, c'est la foi. D'accord? Maintenant, quand cela s'ouvre, cela se produit. Comme nous l'avons vu bien des fois, même dans le livre de Daniel, certaines choses sont censées se produire. Et nous avons vu, eh bien, cela s'est produit. Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Maintenant, nous pouvons dire, maintenant nous avons la foi. Nous avons enfin une révélation divine. D'accord? Eh bien, frère Branham a dit, La foi espère quelque chose qui vous espère révélé, qui n'espère pas encore arriver, mais vous croyez que ça arrivera. La foi, c'espère une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation. Et les églises d'aujourd'hui, Néhémie, croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. C'est-à-dire comme lorsque frère Nathan et moi parlions l'autre jour dans la voiture, et il a dit qu'il a parlé à un ministre, et le ministre croit en une trinité ceci et cela. Mais au moment où il a eu fini, le gars a dû admettre, eh bien, il n'estère pas Dieu, le Fils. Il estère le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, les gens, ils croient des foutaises. Leurs esprits sont entraînés. Ils s'emparent des écoles publiques ou des écoles du diable. Ils, 8, prennent le contrôle de vos pensées et vous nourrissent d'un certain programme. Et puis vous pensez, eh bien, j'ai 72 genres. Vous savez quoi? Je peux être un chat. Aujourd'hui, j'ai mis des petites moustaches. Et j'ai mis un chapeau avec des oreilles dessus. Et maintenant, je suis un chat. Bon sang. Vous êtes fous. D'accord? Même les petits enfants savent que ces gens sont fous. Le prophète a dit qu'il y aurait la folie du temps de la fin et que cela empirerait de plus en plus. Néhémie, vous attendez donc pas à ce que Trump change les choses. Il Néhémie le fera pas. Il Néhémie le peut pas. Ainsi dit le Seigneur, la situation ira de pire en pire. Ainsi, en lisant les paroles de l'apôtre Paul, il a dit, la foi insère en le mot révélation. La révélation estère la substance. La substance, pas une substance. Maintenant, lorsque vous prenez l'article le et que vous le mettez devant le mot pneuma, qui estère un mot grec pour esprit, il devient l'esprit. Alors vous parlez de Dieu. Maintenant, si vous utilisez simplement le mot un esprit, alors vous Néhémie, parlez pas de l'esprit de Dieu, vous parlez d'un esprit. Très bien. Eh bien, quand vous examinez le mot substance et qu'il parle de la substance, pas seulement d'une substance, pas seulement d'une poignée de terre, pas seulement quelque chose que vous pouvez examiner. Ainsi, la révélation estère la substance des choses qu'on espère. Elle estère toute mon espérance et toute ma joie. Vous savez, comme elle a dit, oh, c'estère la joie. La joie, la paix et la joie. Oh, nous avons eu de la joie à faire quoi? À s'enivrer. Pourquoi Esther est libre si elle a de la joie? Vous voyez, c'estère de l'hypocrisie. Ma joie vient du Seigneur, n'estère-ce pas? Et il dit que la révélation, la manifestation de la vérité divine, c'estère la substance, des choses qu'on espère, je l'espère, et l'évidence des choses qu'on n'y voit pas, ou, comme l'a dit frère Branham, qu'on n'y voit pas encore. Et si la foi, ou la révélation, estère la substance des choses qu'on espère, alors nous devons comprendre que le mot espérer signifie ce que vous attendez ardemment. Ainsi, c'estère Dieu qui accomplit ce que vous attendez ardemment, ce qu'il vous a promis. Elle estère pleine d'attente ardente, Brian lève la Bible. Mais quand vous voyez cela se produire, c'estère une révélation. Vous voyez? C'est-à-dire quelque chose que nous attendons avec impatience ou qui se produira à un moment donné dans le futur, mais qui n'est mis c'est-à-dire pas encore produit. Et l'apôtre Paul a également dit dans Romains 8, 24-25, car nous sommes sauvés par l'espérance, nous sommes sauvés par ce que nous lisons ici, Brian lève la Bible. Et nous l'espérons. Nous attendons ardemment à ce que ce soit notre fin. Pas vrai? Ainsi, nous sommes sauvés par l'espérance. Mais l'espérance qu'on voit, oh, elle s'estère déjà manifestée. Frère Brian ouvre la Bible. Or l'espérance qu'on voit n'estère plus de l'espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Comme je l'ai dit, pourquoi j'aurais, à l'âge de 7 ans, mon père m'a donné un vélo, et j'en attends un chaque année. Oh, j'espère, j'espère, j'espère que papa me donnera un vélo. Non, j'ai déjà un vélo. Oh, j'espère, j'espère, j'espère que j'aurai la foi de l'enlèvement. Vous l'avez déjà fait. Vous en faites déjà partie. Attendez-vous simplement à Dieu, comme Noé. Regardez, Noé a passé 120 ans à construire une arche à cause d'une révélation de Dieu. Il va pleuvoir, mais pendant 120 ans, il n'y pleuvait toujours pas, mais il l'attendait, il l'espérait, et puis quand Dieu l'a envoyé à l'intérieur de l'arche et a fermé la porte, il n'y l'a pas fermé lui-même. C'est Dieu qui a fermé la porte. 9. Noé a dit, nous avons réussi. Nous sommes maintenant en présence de ce que Dieu va faire. Et Dieu a envoyé les jugements sur la terre, et les mêmes jugements que Dieu a envoyés sur la terre sous forme de pluie, ont élevé son fils en lieu sûr, lui et sa famille. Très bien. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espérait-il encore? Mais si ce que nous n'y voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Comme Noé. Remarquez sa sagesse ici. Il dit que si nous l'espérons, cela signifie que nous nous attendons ardemment à ce que cette chose se produise. Eh bien, nous avons lu au sujet de l'enlèvement pendant des années, et nous espérions l'enlèvement. Alors, frère Branham a dit, et, c'est un cri, une voix et une trompette. Et, un cri, c'est un message. Et, nous sommes dedans. Nous n'avons plus à l'espérer. Frères et sœurs, nous sommes participants. Nous n'avons pas besoin de regarder les 82 choses qui sont déjà arrivées, des signes et des événements de la parousia. Nous savons qu'ils sont déjà arrivés parce que nous les avons vus. Nous espérons toujours les autres, mais nous savons vraiment qu'ils vont arriver, parce que Dieu l'a dit. 82 sont déjà arrivés. Qu'est-ce qui va le faire changer d'avis pour les 4 autres? Dieu n'y change pas d'avis. D'accord? Et si nous nous attendons sincèrement à ce que cela se produise, alors nous aurons la patience d'attendre que cela se produise. C'est donc l'essentiel. Il s'agit juste de s'asseoir, de lâcher prise, et de laisser faire Dieu. Ainsi, il ne s'agit pas de nous forcer dans cette foi sensationnelle pour faire obéir notre corps à notre ordre et ainsi nous amenons le changement du corps. Ce n'est pas comme si nous devions marcher autour de l'église et dire « Alléluia ! Nous allons faire tomber les murs. » Ce n'est pas la promesse de Dieu pour nous, c'était pour Israël. Mais en termes simples, si nous croyons vraiment que l'enlèvement est une révélation, et que nous savons que la définition de la révélation est la manifestation de la vérité divine, de la parole. Alors, nous devons être prêts à attendre jusqu'au moment où Dieu commence à produire la résurrection et le changement du corps, et en voyant cette vérité divine manifestée, nous verrons ou serons témoins de la révélation de cela, et nous saurons que nous en faisons partie, parce qu'elle nous a déjà été révélée. Il ne le révèle pas aux baptistes, il ne le révèle pas aux pentecôtistes, il ne le révèle pas aux catholiques, il le révèle à ses élus et à eux seuls. Et les élites n'ont pas ce que vous avez. Oh, ils ont eu le faste et le cérémonial comme le pape. Il a un mur de 400 pieds autour de sa maison. Il vit avec des vêtements très élégants et de l'or sur la tête et tout le reste. Qui s'en soucie? Vous savez ce que Dieu pense de l'or? Il en pavra vos rues, c'est ce qu'il en pense, il pavra vos rues. Lorsque vous vivrez dans cette nouvelle Jérusalem, les rues sont pavées d'or. Et j'espère qu'il fera un très bon travail en la faisant d'environ 8 pieds d'épaisseur. Pouvez-vous imaginer cela? 8 pieds d'épaisseur d'or. Et vous marchez dessus, vous les raflez avec vos chaussures, vous marchez sur de l'or. et tous ces gars s'inclinent devant l'image et « Oh, je dois la voir, je dois la voir, je dois la voir. » Et il dit « Vous l'avez déjà. » Sester comme de la terre. Sester comme si le pavage était fait en brûlant des choses, et qu'il fabriquait du goudron et tout le reste. Mais votre or, sester du pavage pour vos pieds. Ainsi, vous pouvez marcher dessus. Pensez-y. Ainsi, vous pouvez marcher dessus. Oh là là. 10. Alors, comme je l'ai dit, nous devons être prêts à attendre jusqu'au moment où Dieu commence à produire la résurrection et le changement du corps, et nous verrons, en voyant cette vérité divine manifestée, nous verrons ou serons témoins de sa révélation, et nous saurons que nous en faisons partie, parce qu'elle nous a déjà été révélée. La parousie a-t-elle été révélée? Eh bien, 82 des 86 événements l'ont été, et j'en fais partie. J'ai vu chaque instant. Les gens qui ont vu la résurrection, à l'époque de Paul, dans la première moitié de la première résurrection, les 500 témoins, dont il est question dans le livre des Actes, qu'ont-ils fait pour devenir témoins de la résurrection? Ont-ils jeûné? Ont-ils prié? Ont-ils créé une meilleure façon de faire? Non. Dieu a révélé ce qui se passait, parce qu'ils ont vu que Jésus était ressuscité. Ils ont vu les choses de Dieu. Les 120 dans la chambre haute, tout recevant une langue de feu. Ils étaient conscients de ce que Dieu faisait, alors ils ont simplement vu ce que Dieu a révélé. Voilà tout. Il n'est mis ce sang par force dedans, oh, si je peux juste. Je n'ai pas la foi pour guérir un ongle d'orteil carné. Comment vais-je voir le 500? Ou comment vais-je faire partie des 500 témoins? Je n'arrive même pas à guérir de mon ongle incarné. N'est-ce pas stupide? Je veux dire, pensez-y. Sester tout simplement hideux de penser de cette façon. Mais qu'ont-ils fait pour devenir témoins de la résurrection? Absolument rien. Mais ils étaient témoins parce que Dieu leur a révélé ce qui se passait. Et Paul a dit, si cela nous est apparu, alors nous n'y l'attendons plus, n'est-ce pas? Car nous sommes sauvés par l'espérance, or une espérance qu'on voit n'est-ce pas une espérance? Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Papa, pourquoi Néhémie me donnes-tu pas un vélo? Eh bien, mon fils, je t'en ai déjà donné un. Papa, pourquoi Néhémie me donnes-tu pas un enlèvement? Mais je te l'ai déjà donné. Je vous ai déjà donné le processus. Vous êtes dedans. Eh bien, pourquoi Néhémie m'emmènes-tu pas chez tel ou tel? Parce que je n'ai rien pour y arriver? Eh bien, je t'ai donné une voiture. Pourquoi Néhémie l'utilisez-vous pas comme l'homme dont le bateau a fait naufrage dans l'océan? Et donc, un hélicoptère est arrivé, et ils ont dit, Esther, ce que je peux vous donner un coup de main? Il a dit, non, j'attends que Dieu me délivre. Puis un bateau est passé. Puis-je vous donner un coup de main? Le gars a dit, non, j'attends que Dieu me délivre. Puis un grand bateau est passé et, on va jeter une corde. Vous le voulez? Non, j'attends que Dieu me délivre. Et ainsi, quelques jours plus tard, il a péri. Et donc, de l'autre côté, il a dit, eh bien, Dieu, pourquoi Néhémie m'as-tu pas sauvé? Il a dit, j'ai essayé. Je t'ai envoyé du secours 3 différentes fois, et tu l'as rejeté à chaque fois. En d'autres termes, vous avez rejeté le cri. Combien de personnes dans le monde ont rejeté le cri? La plupart d'entre eux. Alors, écoutez. Ils n'y changent pas. Ils vont aussi rejeter la voix, qui est la résurrection, et ils vont rejeter la trompette de Dieu. Et ils sont à la recherche d'une autre trompette, d'un trompe physique, trompe signifie trompette en français, note du traducteur. Nous sommes à la recherche de la trompette de Dieu, d'accord? La voix de Dieu. Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec patience. Paul a dit, « Si cela nous est arrivé, alors nous n'y l'attendons plus. » C'est bon? Alors, quand on le voit, ce n'est plus de l'espérance. Quand on le voit, ce n'est plus une attente ardente. 11. C'est ici. C'est l'interprétation de la promesse de Dieu. C'est la parole interprétée par Dieu pour vous. Il l'accomplit. Vous y participez, et puis vous le cherchez toujours, à cause de la théologie. Ainsi, lorsque l'enlèvement aura lieu, nous le saurons parce qu'il n'est mis s'agit plus d'une espérance future, mais d'un véritable je le sais, parce que nous le verrons et saurons ce que nous voyons. Donc, si le cri est la première partie de l'enlèvement, et que vous avez déjà participé à 82 des 86 signes événements de la parousia et du cri, que frère Branham nous a enseigné comme étant la première partie du véritable enlèvement, alors vous avez déjà pris part à la manifestation de la vérité divine. Cela m'est déjà manifesté. J'en fais partie. Alléluia. Vous pourriez tomber mort aujourd'hui, et vous en faites toujours partie parce que vous obtenez votre changement. Maintenant, dites cela à un baptiste ou dites cela à un pentecôtiste. Oh, mais le docteur Intel nous a dit ceci et cela. Peu m'importe ce que le docteur Intel a dit. Donc, j'espère et j'ai confiance qu'à présent, nous sommes arrivés à la position de dépasser l'espérance, quand il s'agit de la révélation de l'apparition de Christ. Parce que nous savons qu'il est ici, et nous savons que le Seigneur est descendu avec un cri, qui est un message. Nous sommes dans le coup, alors qu'envisageons-nous à l'avenir alors qu'il a déjà commencé? Regardez simplement ce qu'il a dit qu'il fera et regardez ce qui Esther fait. L'enlèvement 4 décembre 65 p. 75. Trois choses doivent arriver. En parlant de l'enlèvement, il parle de l'enlèvement. Trois choses arrivent dans l'enlèvement. Avant que Jésus apparaisse, un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. En faites-vous partie? En faites-vous partie? En faites-vous partie? Vous êtes dans le processus de l'enlèvement. Alléluia! Vos enfants vont avec vous, parce qu'ils croient à l'enlèvement. Ils croient au cri, au message. Ainsi, un tiers des événements ont déjà commencé et se sont produits. Et l'ordre de sa venue, l'enlèvement des saints, le rassemblement auprès de lui, et tous ces événements se rapporteront au temps de la fin, à la révélation de lui-même et au retour à la maison des élus, sont en place en ce moment même, et nous sommes participants de sa grâce. Frère Branham se tenait là, et l'église venait de passer. On pouvait voir leur dos, ils étaient nus. Ils ont brandi devant eux des journaux. Et ils étaient tout simplement obscènes. Il a dit, l'église asiatique est obscène. L'église américaine est obscène. Et il a dit, oh, mon Dieu, mais alors que Sester il passait, en avant des soldats chrétiens, et il vit l'épouse. Il voyait la manifestation de la vérité divine. Il l'a vu dans une vision. Et les visions Néhémie montent jamais, parce que frère Branham a dit, je vérifie chaque vision par la parole. Alléluia. Jean a regardé, il a vu le temps de la fin. Comment il fait? Dieu. Ce n'est pas parce qu'il jeûnait, ni parce qu'il priait, ni qu'il avait la fièvre. Non. Dieu lui a simplement révélé le livre de l'Apocalypse. D'accord? Donc un tiers des événements ont déjà commencé. Mon père m'a déjà donné le vélo. Je n'ai plus besoin d'espérer un vélo. Je l'ai et cela est arrivé. Dieu a une façon de faire les choses, Il n'aime et change jamais sa politique. Il n'aime et change jamais ça. Il est Esther le Dieu qui n'aime et change pas. Dans Amos 3.7, il dit qu'il n'aime et fera rien sur la terre, avant qu'il l'ait premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. 12. Ainsi, un tiers des événements ont déjà commencé et se sont produits. Et l'ordre de sa venue, l'enlèvement des saints, le rassemblement auprès de lui, et tous ces événements qui se rapportent à la révélation de lui-même au temps de la fin, et au retour à la maison des élus, sont en place en ce moment même, et nous participons à sa grande révélation. Alors, quelle foi faut-il pour croire en l'enlèvement alors que nous y sommes déjà, qu'un tiers de celui-ci s'estère déjà produit et que nous en sommes un tiers plus loin? Pourquoi devrais-je le chercher? S'Esther en train d'arriver. J'en fais partie. Hébreux 11, 7 par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour le salut de sa maison, et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui est Esther selon la foi. Remarquez maintenant que Dieu a averti Noé. Le cri commença alors. La sécurité de sa famille a commencé. L'avertissement. Il a pris l'avertissement. Frère Branham a dit, écoutez, recevoir et agir sur la parole. Ainsi, Noé a entendu ce message de Dieu, l'avertissement. C'était le début, la toute première chose. Et puis ce qu'il a fait, il a passé son 20 ans à construire l'arche pour la sécurité de sa famille. Il savait que Dieu Néhémie ne laisserait pas pleuvoir tant que sa famille Néhémie serait pas en sécurité. Alors, il hésita à rentrer dans l'arche, parce que Dieu a dit que c'était le moment. Entrer dans l'arche. Il hésita à rentrer dans l'arche et ensuite il s'était assis là, et il a attendu. Maintenant, j'imagine que ses enfants se demandaient peut-être, qu'est-ce qui se passe, papa? Tous les gens à l'extérieur frappaient à la porte. Et puis la pluie a commencé à tomber. Parce que Dieu ferma la porte. Les pluies ont commencé à tomber, les gens frappent. Oh, je suis compatissant. Je vais tous les laisser entrer. Non, il n'a pas fait ça. Il était intéressé par le fait que la parole s'accomplisse. C'est-à-dire tout ce sur quoi il se concentrait. La parole Esther en train de s'accomplir. La parole dit, le jugement Esther en train de s'accomplir. Je suis avec ma famille, ils sont sauvés par ma foi. Ils sont sauvés par le fait que je prends la même foi et que je l'applique pour eux. Noé, étant averti divinement de ce qui allait arriver, et par la foi, il a commencé à appliquer le signe pour sa famille. Combien de personnes ici appliquent le signe pour leur famille? Combien croient pour leurs enfants, leurs femmes? Je suis du nombre. Et il construisit l'arche et entra, puis il attendit la pluie. Combien de temps cela a-t-il pris? 120 ans. Combien de temps, une fois terminé, a-t-il dû attendre que la pluie arrive? Seulement 7 jours. Prenez 120 ans et divisez-y 7 jours. Il a attendu 0,00016%. C'est pire que ce que les banques vous paient comme intérêt pour retenir votre argent. Ce n'est qu'une fraction. C'est comme, et, je peux enfin me reposer pendant 7 jours, parce que je sais que Dieu va y mettre fin. Tout cela c'est fait, par la foi jusqu'à ce que Dieu ferme les portes, et une fois que Dieu a fermé les portes, il n'a eu qu'à s'asseoir et attendre que la pluie arrive. Attendons simplement que les 83, 84, 85, 86 choses se produisent, parce qu'elles vont se produire. Nous avons déjà vu les 82 choses. Mais il était déjà dans l'arche. C'était une réalité pour lui. Il a regardé à droite, l'arche. Il a regardé à gauche, l'arche. Il a levé les yeux, l'arche. Il a regardé en bas, l'arche. Et comme l'a dit l'un des scientifiques, en fait, ils disent de l'arche, si vous êtes déjà allé à l'arche, eh bien, comment ont-ils fait pour que ces éléphants et ces girafes aient tout cela? Entre là-dedans? C'était des bébés. Deux par deux. Ils, 13, étaient des bébés. Puis ils n'ont même pas atteint la période de gestation jusqu'à ce qu'ils soient sortis de l'arche. Donc, ils ont été amenés en sécurité, comme vous le feriez pour un bébé dans votre ventre, et ils pouvaient donc avoir moins de nourriture, parce qu'un bébé Naomi mange pas comme un adulte. Sauf William, mais il n'estère plus un bébé. Mais il devient un grand homme parce qu'il mange cette nourriture. Bref. Vous comprenez. Je plaisante. Mais vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les bébés Naomi mangent pas beaucoup. Ils mangent un peu de lait maternel. Ils mangent un peu de légumes, peut-être moulus, dans un bocal, et cela les satisfait. Donc, Noah n'avait pas de problème. D'accord? C'était donc une réalité pour lui, comme nous sommes déjà en Christ parce que c'est Esther Christ, qui est Esther descendue avec un cri, qui était l'avertissement, le message. Nous voyons l'avertissement avant que les plus Naomi viennent, et l'arche, un type de Christ, l'a pris en haut, ce qui Esther une sorte d'enlèvement pour éviter les tempêtes du jugement qui ont frappé la terre. Et frère Branham a dit, avant qu'une bombe Naomi frappe, nous serons dans les bras de Christ. Vous savez ce que cela signifie? Si Esther une heure avant et que Naomi faut que 6 minutes pour atteindre la côte Esther et peut-être 30 secondes pour arriver avant même qu'une Naomi les tire, nous sommes partis. Avant même qu'il Naomi leur tire dessus, nous sommes partis. Ils se préparent maintenant pour la 3e guerre mondiale. Le savez-vous? Regardez Poutine qui a dit, si vous envoyez des missiles dans mon pays, nous allons vous les renvoyer. Ces gens qui fournissent les missiles, cela inclut tous les pays de l'OTAN, les États-Unis, tout le reste. Ils ont parcouru 700 miles lors d'une incursion en Russie. C'est-à-dire dire à quel point nous sommes en retard. Ils ont franchi la ligne rouge. Cela va arriver, mais cela n'arrivera pas tant que nous n'y serons pas partis. N'est-ce pas? Oh, écoutez, il pouvait regarder autour de lui et voir que les gens se préparaient au jugement à venir. Mais il était dans l'arche avant qu'une seule goutte de pluie Naomi tombe. Avant qu'une seule goutte de pluie Naomi tombe, il était 7 jours à l'intérieur. Et avant qu'une seule bombe Naomi vole, nous sommes dans les bras de Christ. Et puis ils y penseront et le verront. Rien Naomi les retiendra à ce moment-là, parce qu'ils sont retenus pour votre bien. Puis Dieu dit, très bien, il est temps de partir, et ils partirent. Puis, une fois qu'il était dans l'arche, l'espérance n'était plus nécessaire, parce que, comme l'a dit frère Branham, l'espérance n'a plus lieu d'être quand nous pouvons voir que ces choses se sont déjà produites. En d'autres termes, vous n'espérez plus, ils sont en train de se produire. Et nous sommes capables non seulement de les voir se produire, mais c'est-à-dire aussi la chose étrange à propos de ce que vous pouvez voir et que Naomi peuvent pas voir, mais nous sommes également capables de reconnaître ce qui se passe et de les relier à la promesse. Naomi nous a-t-il pas parlé de la guerre bactériologique? Zacharie n'a-t-il pas dit qu'il sera dévoré par toutes les ouvertures de leur corps? Il sera dévoré. Eh bien, nous savons qu'Ebola arrive. Nous savons que cela s'en vient, mais ce Naomi sera pas là quand nous serons ici. Nous serons partis. Alors, nous n'avons plus rien à espérer, c'est-à-dire ici, maintenant nous sommes dans le cri. 14, oh, frères et sœurs, vous savez, cela fait des années que je martèle qu'une révélation Esther, une manifestation de la vérité divine. La révélation, c'est-à-dire observer le déroulement, le dévoilement de la parole qui est la vérité divine. Et quand Dieu commence à ouvrir les yeux de votre cœur, ce qui estère la révélation, et que vous voyez réellement se dérouler son dessein et son plan, pour que vous fassiez partie du cri, de la voix et de la trompette. Alors vous n'attendez plus, vous n'avez plus besoin de la foi pour vous aider à tenir bon jusqu'à ce que, parce que jusqu'à ce que Esther déjà venue, il est Esther déjà là. Nous n'attendons pas d'avoir quelque chose pour nous donner la foi, parce que nous n'avons même pas la foi pour guérir d'un ongle incarné, parce que nous voyons déjà la manifestation de la vérité divine. C'est Esther en train d'arriver, il est Esther en train de la révéler, et nous n'avons rien à craindre. Alors nous sommes arrivés au point où nous n'y cherchons plus l'enlèvement, mais nous sommes entrés dans le processus de le recevoir alors qu'il se déroule, une étape à la fois. Ainsi, cela vous rend, vous et cette partie de la parole. 1. Vous et cette partie de la parole. Quelle partie? Le cri. Vous êtes un. Vous êtes un. Eh bien, si je suis un avec un cri, et qu'il vient avec trois choses, et que je regarde à lui, qui est Esther descendue, je vais faire partie des deux autres, je n'ai mis m'en inquiète pas, et ainsi, vous rend une partie intégrante de ces manifestations de Christ au temps de la fin. Car qui est Esther descendue? Christ est Esther descendue. Vous n'êtes pas descendu. Il est Esther descendu vers vous. Pouvez-vous imaginer le Dieu qui a créé l'univers, où vous pouvez regarder une balle de golf et dire que pour le soleil, c'est Esther comme, c'est Esther 18 pieds plus grand que cette petite balle de golf, et vous regardez les petites taches dans la balle de golf et vous regardez le port. Cela ressemble à une grande vallée d'une montagne. Vous savez, les pores de la balle de golf et vous avez l'air d'y avoir une petite tache. Et ce n'est Esther même pas vous, c'est Esther votre ville. Et pourtant, Dieu est Esther descendu avec un cri, une voix et une trompette pour que tout cela se produise, ce qu'il avait dit qu'il se produirait. Frère Brian lève la Bible et il est Esther ici pour confirmer la promesse qui vous est Esther faite. J'ai des citations pour ça maintenant. Maintenant, voir et reconnaître cette révélation manifestée de Jésus-Christ à la fin des temps Néhémie fait pas de vous lui, mais cela fait de vous une partie de lui. Tout comme Jean 14, 12 Néhémie fait pas de vous Christ parce que ce sera Antichrist, mais il fait de vous une partie de la manifestation de la parole, la manifestation de la révélation de Christ dans son épouse. Hébreux 11. Inversion autorisée du roi Jacques, or la foi Esther la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on n'y voit pas. Avant de poursuivre, je veux que vous regardiez ce verset de l'écriture ici et que vous remarquiez qu'il dit que la foi n'Esther pas seulement la substance. Mais Paul nous dit que la foi Esther l'évidence même ou l'assurance des choses qu'on espère. Qu'Esther ce qui vous donne l'assurance? Eh bien, Dieu Néhémie peut pas mentir. Dieu Esther l'assurance. Car qu'une fois que vous le voyez tout autour de vous, vous n'avez pas à l'espérer, car c'est Esther déjà sur vous. Pourquoi l'espérais-je encore alors que je l'ai déjà? Pourquoi, enfant, espérais-je avoir un vélo alors que, 15, j'en ai déjà un? Mon père me l'a déjà donné quand j'avais 7 ans. Pourquoi Esther ce qu'a 8? 9 et 10 ans, je dirais, oh, j'espère toujours avoir le vélo. Papa dit, tu n'es qu'un enfant stupide, parce que je te l'ai déjà donné. Vous voyez, mon père me l'a déjà donné. Remarquez que l'apôtre Paul nous dit que la foi Esther, la substance et l'évidence. Et remarquez qu'il nous dit que la foi n'Esther pas une substance, comme la poussière, mais la substance. Et nous savons que le mot substance, selon Webster, Esther la partie ou l'élément réel ou essentiel de toute chose, l'essence, la réalité ou la matière fondamentale. Ainsi, nous le lisons ainsi, et nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance et la ressemblance de l'image de celui qu'il a créé. La foi Esther donc la réalité. La matière physique à partir de laquelle une chose existe. Par conséquent, si la foi estère la substance, alors la foi doit être faite de la même essence dont Dieu estère fait. Pas vrai? Or, ce mot pour substance a été traduit du mot grec hypostasis et nous trouvons ce mot aussi utilisé par le même auteur de ce livre des Hébreux dans le premier chapitre. Hébreux 1, 3 qui, étant l'éclat de sa gloire en parlant du Fils et l'image exacte de sa personne, en d'autres termes, l'image exacte de Dieu, comme une réplique, comme un clone, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, la puissance de Dieu, lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'estère assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux. Maintenant, quel mot pensez-vous, dans ce verset, qui estère le même mot grec pour substance qui a été utilisé au chapitre 11? S'estère le mot personne. Ce qui décrit l'essence même de Dieu. Par conséquent, si la foi estère l'essence de Dieu, alors la foi n'estère pas différente du Fils de Dieu, qu'admettons-le, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'estère faite chair. Alors, Dieu estère entré dans son Fils, il a fait toute chose. Pourquoi estère ce que j'attends toujours que Dieu me donne sa promesse, alors que le Dieu qui nous a donné la promesse estère ici pour nous la donner? Le signe de sa venue 4 juillet 62 p. 124 Dieu, je te prie ce soir de réveiller les gens et de leur faire voir que la promesse estère ici. Elle a été donnée à cette église. Dieu commissionnant Moïse le prophète 8 mai 53 p. 15 vous devez être déterminés. S'estère juste. Apprêtez-vous. Prenez le contrôle. Dieu l'a dit. Allons prendre le contrôle. S'estère ce que Dieu voulait que nous fassions. S'estère ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Dieu estère toujours disposé à nous donner, si nous sommes prêts à le recevoir. S'estère juste. Dieu a fait la promesse, elle estère donc nôtre. Elle estère nôtre. Il n'est émis promet pas ce qu'il n'est émis peut pas vous donner. La promesse estère pour vous, et pour vos enfants, pour ceux qui sont loin, même pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. La promesse estère donc ici. Alors, je dirais, Dieu a-t-il promis le cri qui estère le message? Et estère-il descendu avec cela? Dieu l'a promis. Il estère descendu pour le donner. Il n'est mis dépendait pas d'une personne qui fait des erreurs, un Tom, un Joe ou un autre. Il estère descendu, puis il l'a donné à son prophète. 16. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement 4 juin 63 p. 102 maintenant, êtes-vous satisfait que Jésus soit vivant et parmi nous? Dites, Amen. Eh bien, celui qui a fait la promesse estère ici. Et dans toute chose 24 novembre 62 soir p. 66 estère fini. Le Dieu qui a fait la promesse estère ici pour confirmer la promesse. Avez-vous une promesse de l'enlèvement? Eh bien, le Dieu qui l'a fait estère ici. Oh là là! Et puisque l'Écriture nous dit aussi que l'homme estère tel qu'il pense dans son cœur. Et Jésus ajoutait à cela, s'estère de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors l'homme et sa parole sont la même chose. Par conséquent, l'homme estère le composé de ce que sont ses pensées, et ni plus ni moins que ce qu'il pense dans son cœur, s'estère ce qu'il estère. S'estère pourquoi ces gens qui vous donnent un mot salade, qui estère composé de ce qu'ils sont. Ils sont une salade de mots. Eh bien, aujourd'hui, s'estère demain, et demain, s'estère aujourd'hui. Et dans le futur, ce sera le cas. Dans le futur, s'estère demain. Mais vous savez quoi? Le futur sera aujourd'hui. Je veux dire, lâchez-moi les baskets. Je n'y supporte pas ce genre de choses. Ils sont mentaux. S'estère comme un enfant de 5 ans qui fait un discours et n'y dit rien. Parce qu'il n'y peut pas lire ce qu'il y a sur le papier. Il n'a pas de téléprompteur. Maintenant, Ce que j'essaie de faire ce matin, c'est de vous aider à voir comment la révélation de Jésus-Christ cristallisera qui vous êtes. Cela cristallisera votre semence. Dans le livre de Job, nous l'entendons dire ces paroles, « Les choses que je craignais le plus me sont arrivées, s'est-elles cristallisées ? Oui, elles sont venues sur eux. » Et ce n'est pas seulement un truisme, mais c'est un fait. Parce qu'après tout, notre pensée n'est qu'un jardin de semences que nous avons semé. Et quelle que soit la semence que nous semons, c'est ce que nous récoltons selon la loi de la reproduction telle que Dieu l'a établie dans le livre de la Genèse. Chaque semence selon son espèce. Si nous semons des semences positives de la foi, nous récolterons ce que nous avons semé et nous récolterons les bénédictions qui viennent en croyant. Mais si nous semons des semences négatives de doute, alors nous recevrons aussi les doutes que nous avons semés. Si un agriculteur attrape une poignée de semences de citrouille et qu'il pense que ce sont des semences de blé, il aura quand même des semences de citrouille. Je me fiche de ce qu'il pense. Il aura des semences de citrouille. Les semences, c'est ce qu'il a semé, et si vous semez la mauvaise semence, vous aurez des mauvais résultats. Mais si vous semez la semence positive, vous aurez des résultats positifs. C'est pourquoi, vous voyez, Trump a été sous la direction d'un ministre pendant environ 20 ans de sa vie. C'était la pensée positive. Eh bien, c'est très bien. Mais vous voyez, il n'admettra pas qu'il a eu tort, parce que s'il admet qu'il a tort, alors il aura tort. C'est sa pensée. Il veut donc toujours avoir une vision positive. Ils ont même dit, « Néhémie, vous sentez-vous pas mal acquis pour votre femme et votre enfant ?» Et il a dit, « Bon, je n'y ai jamais pensé. » Il a dit, « Ils ont dit, « Eh bien, votre famille tolère-t-elle simplement ce qui se passe ?» Où en font-ils vraiment partie ? Il a répondu, « Eh bien, je vais répondre à ça. » Oui, il tolère. Il a dit qu'une Néhémie voulait même pas me parler de ce qui se passait, 17, parce qu'une Néhémie voulait pas me blesser. Vous voyez, une Néhémie pense pas à leurs propres sentiments. Ils pensent à mes sentiments. Donc, ils n'en parleront même pas. C'est un bon conseil pour les enfants. Néhémie, remettez jamais en question votre père. Néhémie, répondez jamais impudemment à votre mère. Prenez simplement ce qu'ils vous disent parce que c'est dans votre meilleur intérêt. D'accord? Si nous semons des semences positives de la foi, nous récolterons ce que nous avons semé et nous récolterons les bénédictions qui viennent en croyant. Mais si nous semons des semences négatives de doute, alors nous recevrons aussi les doutes que nous avons semés. Écoutez, l'agriculteur sait qu'il va récolter une certaine récolte parce qu'il a semé pour cette récolte. Il n'a pas pris les mauvaises semences. Il a examiné les semences et a dit, « Oui, cela va aller dans ce champ et ces semences ici vont dans ce champ. » Il n'a pas semé de semences fictives. « Oh, je vais juste sortir et semer en espérant, n'aimer rien obtenir. » Il n'a pas semé des semences fictives dans l'espoir d'une vraie récolte. Si vous semez des semences fictives, vous aurez une récolte fictive. Il a semé de vraies semences en s'attendant à ce qu'elles produisent une vraie récolte. C'est de cela qu'il s'agit dans la réalité de la parole. Par conséquent, si nous devons douter de quoi que ce soit, nous devons douter de nos doutes, comme l'a dit frère Bosworth. Car la foi est l'évidence des choses que nous n'y voyons pas, n'y touchons pas, n'y ressentons pas, n'y sentons pas et n'entendons pas. La foi est l'évidence, donc si la foi est l'évidence, alors elle est la conviction et l'assurance que ces choses sont là, bien que dans nos cinq sens extérieurs, nous n'y puissions pas détecter sa présence. Et la foi n'est pas seulement l'évidence, mais elle est la substance. Alors notre foi, qui est une révélation, n'étant pas une substance mais la substance, est aussi la personne. Ainsi, nous allons bien au-delà d'une simple attitude mentale. Nous entrons en Dieu lui-même. C'est donc ça. La révélation est la substance. Maintenant, rappelez-vous, la révélation est une manifestation, et la manifestation de la parole est la substance. Dieu est-il dans la réalité? Dieu était dans la réalité pour frère Branham. Il a dit, vous savez qui nous attendons? Nous l'attendons. Et ils disent, ah, il est ici. Comment le savez-vous? Parce qu'il pouvait sentir sa présence à 8 pieds de lui. La réalité de Dieu était sur la scène. La révélation est la substance, la personne de Dieu, et le fait qu'il vous soit manifesté ouvertement est l'évidence que vous faites partie de ce grand drame. Et ainsi, nous commençons alors à voir la signification d'être élu et spécialement choisi par Dieu lui-même, avant même qu'il n'ait formé le monde, pour devenir les destinataires de sa gloire, de ses valeurs et de ses opinions. Maintenant, pensez à ceci, cette petite balle de golf. Et vous pourriez prendre une loupe et peut-être faire apparaître l'une des légers creux de la balle de golf et regarder à l'intérieur et dire, oh, il y a une ville. Et puis zoomez, zoomez, zoomez et voyez cette petite personne. Puis faites un zoom arrière, un zoom arrière, un zoom arrière, un zoom arrière, un zoom arrière. Et tout d'un coup, vous avez la grande galaxie et les grandes galaxies et elles sont à des milliards de kilomètres l'une de l'autre. Et le Dieu qui, 18, a créé tout cela, veut vous donner sa pensée, il veut vous donner sa pensée. Pensez comme lui, accrochez-vous à ses valeurs, à ses évaluations, à ses jugements. Et par conséquent, nous voyons la grande signification du Saint-Esprit, le magnifique Père de gloire qui est descendu personnellement parmi nous en cette dernière heure. Oui, le Dieu, qui a créé tout l'univers, est vraiment ici. Et il est ici dans le but de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même, ce que nous voyons dans Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, il avait un Dieu, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances, eh bien, il est un Père de gloire. Il est le Père de Doxa. Il est le Père de l'opinion, des valeurs, de l'évaluation. Ainsi, il va vous donner la sagesse et la révélation, la manifestation de la vérité divine dans la connaissance de lui-même. Maintenant, cela devrait nous faire savoir que le Christ qui a apporté l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu a également commencé l'action de la voie en nous, qui est la résurrection et le changement du corps. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 2. 13 car c'est Dieu qui produit en vous à la fois de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Et le Dieu même qui a créé cette immense voie lactée. Et puis il y a des galaxies encore plus grandes là-bas. Il œuvre en vous, il a réduit sa vie Dieu à une si petite semence, comme un homme pourrait placer 300 000 spermatozoïdes sur la tête d'une épingle. Et Dieu lui-même a réduit sa vie Dieu, et il l'a placé en vous afin que vous puissiez aujourd'hui penser comme il pense. Et vous dites, pourquoi voudrais-je m'accrocher à ma pensée? Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère, énergio, opère en nous, cela nous donne de l'énergie. Donc, cette petite lumière est comme une batterie, et c'est tout d'un coup qu'elle nous a activés, des lapins stupides. Et maintenant, nous sommes comme des lapins pleins d'énergie et n'aimés cessant jamais de battre leur tambourin. 1 Thessaloniciens 2, 13 Pour cela aussi, nous remercions Dieu sans cesse, parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, qui agit efficacement, ce mot, sester energio, qui agit efficacement aussi en vous qui croyez. En d'autres termes, je suis énergisé par ce mot, cela me fait du bien, cela me fait ressentir de l'énergie. Frère Branham nous a enseigné que lorsque vous naissez de nouveau, vous avez maintenant un cœur nouveau qui estère une nouvelle compréhension, et cette nouvelle compréhension vous a donné un nouveau désir, puis Dieu vous a donné son propre esprit où vit en vous et maintenant, vous êtes capable de connaître et de comprendre. Comme je l'ai déjà dit, vous n'y saviez pas ce qui se passait, mais maintenant vous le savez. 19. Et, alors, vous avez la foi, qui estère une révélation, et cette révélation produit en vous une expression extérieure et cela vous écarte, de sorte que l'Esprit de Dieu lui-même estère maintenant le poteau d'attache dans votre âme. Et quand Paul cherchait la pensée même de Dieu, l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu le Père, et il a fait cela dans un seul but. Et nous voyons cela dans Éphésiens 1, 18. Afin que les yeux de votre intelligence soient éclairés, pourquoi Dieu vous a-t-il donné son Saint-Esprit? Il veut que vous sachiez ce qui se passe, afin que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance ou l'attente ardente de son appel, en quoi cela consiste. En d'autres termes, alors vous saurez dans quel but et pourquoi Dieu vous a appelé, à savoir, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous voyez, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, c'est à l'esprit d'adoption. Donc, vous vivez dans un seul but dans la vie, c'est pour être adopté, c'est pour avoir le changement de votre corps. C'est pour vous préparer à l'adoption. Frère Branham nous a enseigné que l'enfant, bien qu'il soit un fils, a été placé sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au moment de l'adoption, et quand il avait la pensée de son père, alors il était digne d'être adopté. Et puis tout ce qui appartenait au père était partagé à part égale avec le fils. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Dieu est descendu en 7 heures avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même, pour nous donner un changement de pensée et pour nous préparer à un changement de corps, que Paul a appelé l'adoption, à savoir la rédemption du corps. Maintenant, avant que quiconque n'ait l'occasion de penser que frère Brian est en train de s'enfoncer ici, permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire par là. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu le gage de la résurrection en vous juste là. En d'autres termes, lorsque l'homme reçoit le gage pour, vous lui donnez le gage pour acheter une maison, l'affaire est réglée. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d'avoir le reste. Eh bien, comment obtenez-vous le reste? Il grandit. Vous grandissez en Christ en toutes choses. Vous voyez? Donc, Paul nous dit ceci, nous devons recevoir l'esprit de sagesse et de révélation dans cette connaissance, et n'oubliez pas que cette révélation est sous la forme d'une manifestation de la vérité divine, la parole divine. En d'autres termes, nous avons été témoins de la puissance de Dieu dans le cri, et il nous a donné une certaine onction pour connaître tout ce qui le concerne, notre héritage et notre résurrection. Permettez-moi de relire ceci. 18 afin que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. 19 et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de son immense puissance, 20 qu'il a effectué en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et l'a fait asseoir à sa main droite dans les lieux célestes, 20. Et ce même apôtre a dit dans Romains 8, 11 « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité son propre fils Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » Quel est le mot? Vivifier? C'est vous rendre vivant. Alors que la petite batterie entre en vous. Tout d'un coup, le petit lapin devient très actif. D'accord, maintenant, nous savons que cette vivification, c'est-à-dire le fait de rendre vivant. Mais c'est-à-dire plus que simplement être en vie, c'est-à-dire une puissance transformatrice en vous. Une puissance de résurrection qui est-à-dire maintenant dans votre corps. C'est-à-dire dans votre corps. Vous êtes en ce moment ressuscité en Christ. Oh là là! Cela se produit en ce moment même. Le véritable saut de Pâques 2 avril 61 p. 69. Or, aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Pourquoi pouvons-nous passer un tel moment sur les choses de Dieu? Parce que nous sommes ressuscités. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alors nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Oh, vous remarquez, pas scellé de cette façon, mais scellé à l'intérieur. Oh, là là, si seulement l'Église pouvait voir cela. Voyez-vous, nous n'y sommes pas scellés à l'extérieur, nous sommes scellés à l'intérieur. Ces jours-là, quand le péché était en abomination devant Dieu, et qu'il n'y avait pas d'appropriation pour l'emporter, nous avions été scellés loin de cela. Eh bien, quand cela s'est déchiré en deux, et que ce sceau a été brisé par un sacrifice d'expiation fait pour nous, maintenant nous sommes baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur. Nous sommes ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités, déjà ressuscités. Comment le savez-vous? C'est ce que dit la Bible. Amen. Ça me suffit, nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec lui dans la résurrection spirituelle. Que signifie le mot vivifié? Vivifié signifie résurrection. C'est juste. Nous sommes déjà ressuscités maintenant même, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, profitant du sceau de Pâques. Amen. C'est le véritable sceau de Pâques de Dieu. Comment allons-nous? Par un seul esprit baptisé dans le corps, et scellé éternellement. Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. De quoi ressuscitons-nous? D'une vie de péché. Nous étions autrefois des pécheurs et nous aimions les choses du monde. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes au passé, déjà vivifiés. Ce qui signifie que nous sommes rendus vivants de mort que nous étions. C'est pourquoi vous, Néhémie, pouvez pas supporter ce que vous entendez aux informations et des présentateurs. Vous savez, ce Néhémie sont que des fausses nouvelles. Vous savez, tout est faux. Votre esprit est déjà au-delà de cela. Vous êtes à des années-lumière au-delà. Vous passez la voie lactée. C'est la résurrection. La puissance de résurrection du Saint-Esprit en vous. Par conséquent, j'espère que vous pouvez voir ce matin l'importance de recevoir cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Ce mot connaissance ester epiginosco, signifiant une connaissance complète basée sur une relation intime complète. Marie a dit, comment puis-je le savoir? Ginosco aucun homme, n'ayant connu aucun homme. Je veux dire, comment puis-je être enceinte en ayant connu, en ayant ginosco, aucun homme? C'est donc une relation intime qu'ils n'aimés peuvent pas recevoir, mais vous l'avez déjà reçue. 21. Et il faut que cet esprit de sagesse et de révélation ou la manifestation de la vérité divine entrant dans son Église fasse d'elle une épouse remplie de la pensée de Christ et nous prépare en nous vivifiant ou en nous rendant vivants. L'union spirituelle de l'épouse du Christ. Car seuls ceux qui le reçoivent peuvent en faire recevoir, premièrement, le changement dans l'homme intérieur, qui est un nécessaire avant que nous puissions recevoir le changement du corps, qui permettra un enlèvement ou le fait d'être pris en haut. En d'autres termes, nous devons avoir cette union spirituelle. Très bien. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 12, 1-2. Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, un sacrifice saint, et n'oubliez jamais cela, car Dieu a dit, « Je suis saint, soyez donc saints ». Vous trouvez tous ces gens qui vivent dans la fornication et prennent de la drogue et tout le reste. Oh, je suis chrétien. J'ai des tatouages partout sur le bras, mais je suis chrétien. Non, ce n'est pas le cas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vivre une vie sainte. Si vous exprimez ce Saint-Esprit qui vit en vous. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas exprimer une vie sainte. Et celui qui est saint nous a donné son Esprit Saint, sa vie sainte pour nous rendre saints. À présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre service raisonnable. De l'ennemi, soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de votre intelligence, entendement, afin que vous puissiez approuver en étant mis à l'épreuve, quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ainsi, nous examinons les effets du Christ dans votre homme intérieur qui est transformé par l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. Les 70 semaines de Daniel 6 août 61 p. 36 et se retrouvent dans cet état-là. Incliné. Et tout ce que ça montre, c'est que maintenant, c'est seulement une période dans le temps. Néhémie, voyez-vous pas? Dieu Néhémie peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il Néhémie l'a pas fait auparavant. Et s'il Néhémie l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, en Néhémie sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra, au dernier, en ce dernier jour. Voyez, cela lui a été donné. L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, qu'est-ce que c'est? Un ange venant à un seul prophète, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? 22. Ainsi, la révélation de sa présence, la manifestation de sa présence, avait pour but que l'esprit de sagesse et de révélation, dans la pleine révélation de sa venue à l'Église, dans les derniers jours, révèle ces grandes choses secrètes et profondes. C'est le cri de 1 Thessaloniciens 4, 16 car le Seigneur lui-même, pas un autre. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Puis nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 8 Sester pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles? En d'autres termes, parlez-en, cela se passe tout autour de vous. Remarquez ce que cela nous fait. Comme nous le voyons, dans 2 Corinthiens 4, 16 Sester pourquoi nous Néhémie ne laissons pas abattre, même si notre homme extérieur dépérit, comme le mien, toutefois l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et nous voyons où ce renouvellement se produit dans Éphésiens 1, 4, 23 et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 et que vous revêtiez le nouvel homme, qui est créé selon Dieu, en justice et véritable sainteté. Et nous voyons comment cela se renouvelle dans Colossiens 3.10. Et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est Dieu. Remarquez que dans Éphésiens 1.4, 24 et Colossiens 3.10, il y a un certain type de connaissance que nous devons avoir pour recevoir un changement dans notre corps. Et comme nous l'avons vu dans Colossiens 3, 10, cette connaissance s'astère selon la connaissance de celui qui a créé l'homme intérieur. Et il n'existe qu'un seul qui peut créer et s'astère Dieu, le Créateur lui-même. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de noter que dans tout ce que Dieu a pour nous, il y a toujours un positif et un négatif à cette chose. Deutéronome 28 nous dit que pour chaque bénédiction, il y a aussi une malédiction, mais tout dépend de notre approche de la parole de Dieu. Que nous voulions la recevoir ou la refuser. Car en la recevant, nous recevons les bénédictions, mais en rejetant sa parole ou en nous en éloignant tout simplement, nous recevons la malédiction de Dieu. Et puisque la vie est le fruit de la bénédiction, et que la souffrance et la mort sont les fruits de la malédiction, alors pourquoi quelqu'un de saint d'esprit voudrait-il rejeter ce qu'il bénit? Et vous remarquerez que nous avons lu à la fois dans Éphésiens 4, 24 et dans Colossiens 3, 10 le mot selon où il est dit, et nous avons revêtu l'homme nouveau, qui est à renouveler dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est la manière dont Dieu produira l'image de notre homme intérieur. Ce mot selon est tiré d'un mot grec, kata, et se prononce de la même manière que le mot japonais kata. Or, dans la culture japonaise, le kata est une forme ou un exercice que l'on fait pour produire une harmonie entre son corps et son esprit. 23. Mais alors que l'homme naturel se concentre toujours sur son corps, le vrai croyant se concentre sur le fait que son âme et son esprit sont en harmonie avec Dieu en étant en harmonie avec sa parole. C'est pourquoi il a ordonné que sa doxa nous rende un. Ainsi, en lisant à la fois Éphésiens 4, 24 et Colossiens 3, 10, nous entendons Paul dire, et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. C'est la manière dont Dieu fera apparaître l'image de notre homme intérieur. Selon l'image, kata l'image. Et le mot kata en hébreu signifie à la ressemblance de. C'est pourquoi nous le lisons ainsi, et nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance à la ressemblance de celui qu'il a créé, remarquez, il est renouvelé en connaissance à la ressemblance du Créateur lui-même. Dieu nous a donné sa doxa pour que nous soyons comme lui. C'est ce qu'il fait. Au fur et à mesure que vous recevez sa parole, vous devenez de plus en plus comme lui. Ainsi, c'est la connaissance même de Dieu qui apporte notre changement, lorsqu'il nous révèle cette connaissance. Et la parole de Dieu est une semence et donc elle est porteuse de la vie Dieu. Et donc, après avoir été semée, elle doit commencer à produire une vie à l'image de ce qui a été semé. Et c'est exactement ce que nous lisons dans Colossiens 3, 10 Éphésiens 4, 23. Or, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 23 étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Alors, ceux qui sont nés d'une semence incorruptible doivent naître selon où la ressemblance de Dieu vit, et ceux qui sont nés d'une semence corruptible naîtront d'une forme de vie corrompue. Ils n'aiment ils peuvent s'en empêcher. La loi de la vie dans Genèse 1, 11 dit chaque semence doit se produire selon son espèce. Et ce qui fait que chaque semence entre dans la manifestation de ce qui est la vie à l'intérieur, c'est la lumière de la parole de Dieu qui brille sur cette semence. L'apôtre Paul a dit qu'il faut la lumière pour rendre quelque chose manifeste. Éphésiens 5, 13 mais toutes choses qui sont réprouvées sont manifestées par la lumière. Or, le mot réprouvé signifie que toutes choses qui sont manifestées sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est manifesté est la lumière. Par conséquent, s'il n'y a pas de lumière, nous n'y saurons jamais ce qu'est vraiment la semence. Alors, nous n'y devrions pas être si surpris lorsque nous voyons des gens que nous aurions pu connaître pendant des années et des années devenir si rapidement différents lorsque nous leur faisons l'écho ou reflétons la lumière de Dieu. C'est comme si vous entendiez ces gens dire, j'ai renoncé à être démocrate. Et comme je comprends de plus en plus comment les choses fonctionnent, je suis devenu républicain. Et je n'ai mis par le pas, je veux dire. Ils sont tous les deux mauvais. Mais je dis juste ici, ils disent. Oh, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes connaissances. J'ai perdu de bons amis, que j'avais depuis longtemps, mais j'ai découvert qu'ils n'étaient vraiment pas de bons amis. Eh bien, vous voyez, c'est la même chose alors que vous accumulez la parole de Dieu. Votre écosystème de personnes avec qui vous vivez, il semble se retourner contre vous de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il se retourne contre Dieu, et il voit Dieu en vous. Très bien. Alors nous ne devrions pas, 24, être si surpris quand nous voyons des gens que nous avons pu connaître pendant des années et des années devenir si rapidement différents. Lorsque nous commençons à leur faire écho ou à leur refléter la lumière de Dieu. Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 2 que la grâce et la paix vous sont multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Maintenant, comment une personne grandit-elle? C'est-à-dire parce que la semence en eux commence à se multiplier. Les chromosomes se divisent, et après vous avez 2 chromosomes, et après vous avez 4 chromosomes. Et donc, comment cela se fait-il? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et par conséquent, nous voyons la manifestation des attributs et des caractéristiques de Dieu être formés en nous par sa parole. Comme nous le lisons dans 2 Pierre 2, 4, la nature même de Dieu, sa nature divine vient en nous par ses paroles. 2 Pierre 1, 4, par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, ça, c'est la parole, afin que par elle vous soyez participants de la nature divine, la nature de Dieu, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. C'est pourquoi, frères, en conclusion, si nous avons vraiment été pris dans la révélation du Christ, qui est la manifestation de la présence de Dieu à nous, alors nous n'aimons, devrions pas nous attendre à entrer dans une sorte de foi qui nous mettra dans l'enlèvement, car la foi ou la révélation est la substance, c'est la personne de Dieu, et il est venu à vous. Il est descendu avec un cri. Comme l'a dit frère Branham, le Dieu qui nous a donné la promesse est ici pour la confirmer. Ce n'est pas vous qui vous élevez vers lui, mais il est descendu à votre niveau, pour faire de vous une partie de sa grande révélation, et il a commencé le dévoilement dans son propre fils, et en ce jour en William Branham, le prophète confirmé de Dieu, le premier fruit de la moisson, est maintenant vous. Alors, de quoi avez-vous peur aujourd'hui? Frère Branham nous a dit que celui qui a fait la promesse est ici pour confirmer la promesse. Et quelle est la promesse de ce jour? Qu'il y aura un enlèvement, qui est un cri, une voix et une trompette. Et Néhémie t'a-t-il pas déjà confirmé ta place dans son cri? N'avez-vous pas entendu le cri de minuit? Voici, il est ici, il se tient à la porte et frappe. N'avez-vous pas été informé de sa présence parmi nous? Sa parousia, son apocalypsis, son phénro, son épiphanéa, son gynosko, sa doxa, sa parousia. Si vous avez été fait participant du CR, alors Néhémie fera-t-il pas aussi de vous un participant de la voix et de la trompette? Alors, soyez tranquille, petite épouse. Car il a dit, c'est le bon plaisir de mon père de vous donner le royaume. Quel donateur, je l'aime. C'est une personne tellement merveilleuse. Il est toujours, toujours en train de donner, et il est ici pour faire exactement cela. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a commencé tout le processus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. 25. Apprenez simplement à faire confiance et à obéir car il n'y a pas d'autre moyen. Pour être heureux en Jésus, vous devez faire confiance et obéir. Inclinons simplement nos cœurs pour un mot de prière. Grâce Père, Je sais que j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui, mais je voulais décomposer le sujet pour que les gens puissent comprendre. Et je crois qu'ils comprennent. Et donc, Seigneur, nous sommes un peuple heureux parce que nous faisons partie de ce que tu fais. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est taire simplement de lâcher prise et de laisser faire Dieu, parce que tu vas achever ce que nous t'avons déjà vu commencer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2024. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancourt@yahoo.com 26.